de philosophie première par le Père Marie-Dominique Philippe, le 1er juin 1992 à Saint-Jodard.
Durant le mois de juin, il ne faut pas l'oublier, il y aura des examens. On organisera ça. Le Père Marie-Dominique l'organisera après la Pentecôte. On vous laisse encore cette semaine-ci tranquille. Surtout pour ceux qui prennent l'habit et qui font profession. Qui n'y pensent pas. Et puis après, on organisera les examens. Vous savez dans quel esprit on fait les examens ici? Ce n'est pas du bachotage, c'est d'essayer de reprendre pour mieux comprendre certains aspects qu'on a pu voir ensemble et entrer plus à fond dans cette recherche de la vérité. Examen écrit, examen oral. Je tiens beaucoup à ce qu'il y ait un examen oral pour chacun de ceux qui enseignent. Parce que c'est souvent le seul contact qu'on a, vois-tu, intellectuel, pour sonder l'écrit, on ne s'aperçoit pas très bien. À l'oral, au bout de 5 minutes, on sait si on a compris ou pas compris, en posant quelques bonnes petites colles. Alors on sonde comme ça, jusqu'où l'être a pénétré. Cadit in intellectus. Alors, 50 mètres, 100 mètres, cadit, 1000 mètres. C'est ça, parce qu'il tombe. Là, il faut jauger exactement jusqu'où il est tombé. D'autre part, cette semaine-ci, il y aura forcément moins de cours. Je fais mes cours aujourd'hui et demain. Le Père Marie-Dominique vous dira pour laisser tranquille ceux qui font profession et la prise d'habit, pour des cours particuliers, une originalité nouvelle. Alors, il y a une petite question pour nous remettre dedans. Pouvez-vous reprendre pourquoi ce n'est pas l'aliment détermine la vie végétative, toi, les opérations de la vie végétative. Mais le vivant, pourquoi la subjectivité transcendantale de Kant est-elle vraie pour la vie végétative? En faisant attention, hein. Vous voyez, je voulais montrer que ce que Kant disait, c'est très curieux, est vrai de ces opérations vitales de la vie végétative, mais pas de la vie intellectuelle. Donc c'est pas ce que Kant disait, il s'est trompé. Il a vu univoquement le vivant comme la vie végétative et le premier analogué pour nous. Si on est fatigué intellectuellement, ce qui conditionne détermine. N'oubliez jamais ça, c'est une chose qu'il faut beaucoup réfléchir. Ce qui conditionne détermine. C'est vrai pour toute notre psychologie, ça. Notre psychologie nous conditionne. Et quand on est fatigué, notre psychologie nous détermine. Parce qu'on n'est pas déterminé par sa psychologie. On est déterminé par la morale. On est déterminé par la finalité. Ce que le psychologue ne saisit pas. Mais quand on est fatigué, le conditionnement détermine. Aujourd'hui, il y a du brouillard, donc je suis bête. Mais ça, c'est le brouillard qui détermine. Quand il y a du soleil, je suis intelligent. Il y a des gens comme ça. Pas par rapport à leur intelligence, mais par rapport à leur affectivité. Ce qui revient au même. Analogiquement. Alors, c'est ça qu'il faut toujours bien comprendre, que le premier est génétique. Le premier génétique ne peut que conditionner tous les autres. Mais quand on est fatigué, intellectuellement, vous comprenez ce que je veux dire, c'est quand on ne va pas très loin, intellectuellement. Alors, celui qui conditionne détermine. Et c'est ça l'univocité. On retombe dans les ornières, univoque, comme le cheval fatigué. Quand le cheval est fatigué, il retourne tout seul à l'écurie. Il est conditionné par les ornières. Pas besoin de le conduire. C'est très curieux, mais il faut beaucoup réfléchir à ça. Vous voyez, toujours saisir l'ordre génétique et l'ordre de perfection. L'univocité fait qu'il n'y a qu'un seul ordre. Et c'est l'ordre génétique qui détermine tout. Et c'est vrai que psychologiquement, l'ordre génétique joue un rôle très important. Vous avez eu un père sévère, dur. Toutes les autorités seront teintées de ce père sévère et dur. Alors que c'est tout à fait différent. Mais parce que vous êtes fatigué, parce que vous retombez dans le point de vue des ornières. Les ornières psychologiques, on devrait dire les ornières psychologiques, vous voyez. Alors qu'ils nous remettent toujours dans cette perspective-là. Et alors on voit de cette manière-là. Quand il est fatigué, l'univocité domine. Et on ne voit pas les paliers différents, analogiques. Les situations différentes, analogiques. Donc, je reprends. Je vous disais dans la vie végétative, prenez la nutrition. La nutrition, c'est une opération d'assimilation. Qu'est-ce qui détermine l'assimilation? Est-ce que c'est l'aliment ou est-ce que c'est le vivant? Vous allez prendre une petite carotte. Le petit lapin prend la carotte aussi. Ils assimilent des carottes. Est-ce que l'assimilation du lapin qui assimile la carotte et l'assimilation de l'homme qui assimile la carotte est la même parce que tous les deux mangent des carottes? Non. Le petit lapin l'assimile comme petit lapin, son système végétatif. Et l'homme l'assimile avec son système végétatif. Qu'il y ait beaucoup de ressemblances chimiques entre les deux, c'est évident. Mais c'est quand même pas la même assimilation. On va vous mettre un estomac de lapin. Vous affirme que ce sera vite rejeté. Oui. Donc, qu'est-ce qui fait l'assimilation? C'est le vivant qui fait l'assimilation. C'est tel vivant. La carotte est une condition sine qua non de l'assimilation. Parce que dans la carotte, elle est assimilable. Et vous prenez la carotte en tant qu'elle est assimilable. Et vous prenez le chou en tant qu'il est assimilable, les choux de Bruxelles. Vous les prenez en tant qu'ils sont assimilables. Et la pomme de terre en tant qu'elle est assimilable. Et si le cuisinier empoisonne ses carottes. On peut le faire. Elles ne sont plus assimilables, elles vous empoisonneront. Il pourra faire que ce poison, on ne s'en aperçoive pas, et on croit vraiment manger la carotte. Vous voyez, c'est très curieux. La carotte, c'est le goût. C'est évident, c'est le goût. C'est pas l'assimilation. Le goût, c'est la vie sensible. C'est pas gustative. Il y a des choses qui sont excellentes à votre palais, mais qui sont amères à vos entrailles. Ça arrive, ça. Pourquoi ? Le goût, ça c'est la vie sensible. Et l'assimilation, c'est votre végétative. Il n'y a pas une harmonie constante. Normalement, si le cuisinier n'était pas passé, et si on était comme la petite chèvre, il y a une harmonie entre les deux. C'est très mystérieux, ça. La chèvre ne prendra jamais une herbe empoisonnée. Tandis que le cuisinier qui fait cuire des herbes peut faire des herbes empoisonnées. Parce que justement, quand la cuisson, c'est l'art qui vient de l'extérieur et qui ne saisit pas toujours l'harmonie entre l'herbe dans son goût particulier et dans sa capacité d'être assimilable. Alors que la nature fait bien les choses. Si on n'a pas un goût dépravé, on aimera les choses qui sont bonnes. C'est pour ça que certains médecins, quand on a affaire à quelqu'un qui est assez fatigué, on lui dira, mais laissez-le, pas de régime, qu'il mange ce qu'il désire, ce qui lui coûte. Laissez-le. Et n'imposez pas de l'extérieur. Parce qu'on ne connaît jamais le rythme particulier de chacun. Tandis que quand vous imposez un régime, ça ne vous donne aucun goût, vous n'allez pas manger. Quand vous êtes très fatigué. Donc vous voyez bien, c'est le vivant avec sa détermination propre de son estomac et de tous les sucs gastriques qui va déterminer exactement l'assimilation. Les sucs gastriques ne sont pas dans l'aliment. Mais il y a une harmonie entre les deux, ça c'est très vrai. C'est pour ça que je dis, l'aliment implique, tu vois, la nutrition par l'aliment, c'est des conditions sine qua non. Mais c'est pas la détermination. La condition sine qua non ne détermine pas. Distinguons toujours la condition sine qua non qui est du côté matériel. La carotte est du côté matériel. C'est la nutrition de la carotte. Comme c'est la statue de bois. Et la nutrition de la carotte est excellente pour cet individu. Et la nutrition des choux de Bruxelles est excellente pour cet autre individu. Et il peut se faire que le goût qui s'est déterminé très jeune demeure. Et à cause du goût, il y a certains éléments qu'on n'arrive pas à assimiler. Une condition sine qua non. Parce que le goût peut immédiatement vous mettre dans une attitude de rejet, très ancien. Vous voyez, c'est le lait, c'est très significatif, c'est toujours l'exemple qu'on prend. Il y a des personnes qui ne peuvent pas prendre les pots de lait. C'est très ancien, c'est très vieux. Et ça leur met tout de suite dans une attitude de rejet. Il ne faut pas être son voisin. N'assimile pas. Il faut, vous voyez, essayer de rendre votre vie végétative un peu humaine. Et ne prenez pas votre vie végétative comme le petit cochon qui se précipite à toute vitesse sur la ligne. Vous avez déjà vu les cochons manger. Il faut les voir une fois dans sa vie. Pour se demander, est-ce que le réfectoire des moines, c'est l'assemblage des petits cochons? Au moins, les moines récitent des grâces. Et après, et il y a la lecture, mais après, la vie végétative reprend vite ses droits, vous savez. Et les droits de la vie végétative, doit l'humaniser. Il y a une manière de manger qui est humaine. Mais vous voyez, ça n'a rien à voir avec la nutrition. La nutrition demeure la même. Ça, c'est sûr. Vous pouvez manger avec une... dans une sainteté remarquable et ne pas digérer. Vous voyez, la vie végétative a une détermination fondamentale, individuelle et spécifique. Et les deux sont très liés, individuelle et spécifique. Et là, on voit bien la subjectivité transcendantale. Qu'est-ce que ça veut dire, la subjectivité transcendantale? Ça veut dire que l'objet n'est qu'une condition sine qua non et qui se tient du côté matériel. Ça veut dire que l'objet ne détermine pas et qu'il a exactement le même rôle que l'aliment. Ce qui est très curieux, c'est qu'Aristote fait une relation analogique entre l'aliment et l'objet. Et cette relation analogique n'est pas respectée chez Kant. Et c'est le premier du conditionnement qui l'emporte sur ce qu'est l'opération vitale. Mais Aristote, et je crois que là, c'est le premier qui a fait ça, parce que Platon n'a pas fait. Aristote montre qu'il y a trois niveaux de vie en fonction de l'assimilation différente. Assimiler une carotte, ce n'est pas la goûter, ce n'est pas la voir. Autre chose est le goût, autre chose la nutrition. Et vous arrivez à maîtriser votre goût, mais pas votre vie végétative. Vous pouvez maîtriser votre goût. Ça tous, ça fait partie de l'éducation. Le gosse qui boude et qui ne veut pas prendre sa soupe, et sa mère dit, tu prendras ta soupe. Non, 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 je ne la prendrai pas. C'est dégoûtant cette soupe. C'est la soupe de la semaine. C'est dégoûtant. Je ne veux pas ça. Je la rejette. La mère dira, si tu ne la prends pas, tu n'auras pas de dessert. Mais petit déclic, hein.
Mm-hmm.
l'esprit sensible, l'objet, reprend ses droits. Plus exactement, l'objet apparaît à ce moment-là. Puisque avant, c'est l'aliment. Et l'aliment n'est pas l'objet. Il est la condition sine qua non. Il est du côté matériel. Tandis que du côté de la connaissance sensible, l'objet reprend ses droits. Ce que je vois, c'est la couleur de la rose. Ce que je vois, c'est le brouillard. Ce que je vois, c'est la lumière qui commence à dépasser le brouillard. Ce moment intéressant. L'aurore aux doigts de rose. Hein, Homère. Et c'est la même chose pour Louis. C'est la même chose pour le toucher. Apparaît là les qualités sensibles. Et les qualités sensibles déterminent, et on précisera, les qualités communes, les sensibles communs qui conditionnent, et les sensibles propres qui actuent. Donc vous voyez, là encore, on retrouve la distinction entre la condition sine qua non, et la condition sine qua non, c'est le conditionnement. Et ce qui détermine, ce qui actue. Dans la vision, ce qui détermine, ce qui actue, c'est l'objet que je vois, c'est la couleur, c'est la lumière. Et je préciserai conditionnement, détermination et acte. Qu'est-ce qui détermine? Qu'est-ce qui conditionne la quantité? Ma vision n'est pas la même quand je vois un ruban énorme rouge que si je vois un point rouge. La quantité conditionne ma vision. L'intensité conditionne Louis. sais. Mais c'est le conditionnement. Mais la lumière, non. Et au fond, il n'y a que le peintre qui sait vraiment ce que c'est que la lumière. Il est tout attentif à ça. Et l'homme ordinaire sait très bien que la lumière, ça joue un rôle capital. Mais il ne fait pas attention. Quand vous voyagez, vous voyez que la lumière de la Grèce n'est pas la même que celle de Jérusalem. Il n'est pas la même que celle de l'Île-de-France. Il n'est pas la même que celle de l'Amérique du Sud, l'Argentine. C'est très curieux, ça. Si on est attentif à la lumière. Et c'est pourtant la même couleur. Vous pouvez fabriquer des couleurs. Est-ce que vous fabriquez la lumière? Vous allez dire, oh oui, l'électricité. Oui, mais c'est pas du tout la même couleur. C'est pas du tout la même lumière. Alors vous allez me dire que la couleur, c'est la même chose aussi. C'est vrai. Si notre œil était suffisamment, j'allais dire, éduqué, il verrait tout de suite. Mais quand il n'est pas très éduqué, il ne voit pas. Et voilà le degré d'une civilisation. Suivant qu'on arrive à déterminer les sensibles propres et les sensibles communs. Et quand vous retombez dans les sensibles communs, ah oui, votre culture est diminuée, dégringole, elle devient quantitative. Alors, au point de vue de l'acte, dans la sensation, c'est l'objet et la lumière pour la vision. C'est la lumière qui actue. Mais cet acte n'est parfaitement vécu que dans la vision. Alors, vous trouvez là la distinction entre la lumière qui actue ma vision et ma vision, mon opération vitale. Entelegeia, energeia. Mais là, vous pouvez commencer à distinguer les deux. Et vous voyez que votre opération vitale de voir est dépendant de l'acte. Dépendant de l'objet aussi. Tandis que vous voyez que dans l'imagination, vous êtes au-delà de ce conditionnement. Vous pouvez imaginer quand vous voulez quelque chose que vous avez vu, quelque chose qui vous a impressionné. Mais en imaginant, vous n'avez plus du tout la même netteté. C'est le conditionnement qui l'emporte. C'est du repeint. C'est quelque chose déjà vu qui est repris. Et c'est le conditionnement qui l'emporte. Donc voyez, dans l'opération vitale de vision, l'objet joue différemment. L'objet, en tant qu'il détermine, en tant qu'il actue, joue diversement. À travers toutes mes sensations et à travers mon imagination. Dans l'imagination, l'energeia et l'entelegeia sont toujours confondus. C'est l'entelegeia qui donne l'energeia. C'est le propre de l'imagination. Vous vous actuez vous-même. C'est pour ça que dans l'imagination, vous retrouvez la subjectivité transcendantale. Puisque c'est l'homme qui imagine, qui détermine. Je me donne et mon appui détermine. Oh, c'est curieux, vous voyez, ce parallélisme entre la vie végétative et la vie imaginative. Des deux côtés, c'est la subjectivité transcendantale. Et des deux côtés, ce qui actue, c'est le vivant. C'est le vivant qui est acte et l'objet n'est que second. Et c'est vous-même qui vous donnez à travers votre réflexion et votre conscience. Subjectivité transcendantale. Quand vous entrez dans le domaine de l'intelligence, alors à ce moment-là, l'objet reprend toute sa force et c'est l'objet qui actue, attention, dans l'appréhension, l'objet détermine et il est assimilé. Vous retrouvez l'assimilation et vous dites assimilation intentionnelle, en ce sens que ce n'est pas le sujet connaissant qui assimile. Oui, c'est lui qui assimile, mais il est déterminé par la quiétude de la réalité qu'il connaît. Et donc, vous retrouvez là le primat de l'objet. Et dans le jugement, vous retrouvez l'acte qui est la réalité existante. Vous devez distinguer l'acte de la détermination. Et quand vous déterminez, quand vous distinguez l'acte de la détermination, vous distinguez entelekeia et energeia. L'energeia, c'est l'acte. Et entelekeia, c'est la détermination qui implique l'acte. Et qui implique un acte lié à la détermination. Tandis que le propre du jugement, c'est de pouvoir distinguer le point de vue de l'acte de la détermination. Ce qui permet de répondre à Descartes. La détermination, dans ma vision, peut être erronée, mais pas l'acte. Erronée, vous voyez dans quel sens ? J'ai un organe visuel qui fait que le vert, je le vois rouge. Ou l'inverse. Donc, ça joue du côté de la détermination, mais pas du côté de l'acte. Le jugement va toucher la réalité existante. Que je la vois verte ou rouge, ça revient au même. Donc, je vois bien là que l'intelligence se sert des déterminations qui me sont données par mes sens, qui me sont données par l'appréhension. Mais elle dépasse cela et elle n'est que conditionnée par l'appréhension et conditionnée par les sens, par les sensations. Elle n'est pas déterminée. L'intelligence a sa propre détermination qui est l'acte de la réalité qui existe. Primo, cadit, in intellectus, ens. La première chose qui tombe dans l'intelligence, c'est ce qui est. Oui, ça, c'est très important. Et là, c'est toute la philosophie de l'acte et de la puissance qui permet de déterminer ça. Et c'est la seule réponse qu'on peut donner à la dialectique hegelienne. C'est de montrer qu'il y a quelque chose qui est au-delà de l'assimilation, qui est au-delà de l'aspect quantitatif, qui est l'acte d'être. L'être comme tel est au-delà de la forme, est au-delà de la détermination. Alors, la question, est-ce que j'assimile l'être intentionnellement? Ou est-ce que l'être est au-delà de l'assimilation, est inassimilable? Et j'y adhère, je le reconnais, je le touche. nous voyons bien comment, chez le vivant, la métaphysique de l'acte et de la puissance prend trois niveaux différents. Donc quand je parle de l'opération vitale, attention, attention, je dois tout de suite dire trois types d'opérations vitales, trois manières différentes de saisir l'acte, l'énergie et l'intellectio. Et en définitive, une opération vitale la plus parfaite, c'est l'intelligence qui me met en présence de l'être, en acte. L'être existant, l'exister, et qui me met en présence du bien, dans l'opération vitale, spirituelle, de l'amour. L'amour me fait découvrir le bien. Et là, je vois bien comment le bien détermine mon amour et l'actue. Et je distingue parfaitement l'énergie et l'intellectio. Mon amour, c'est mon opération vitale, mais cette opération vitale est actuée par le bien. Il faut bien saisir ça. Et je vois donc que dans l'opération vitale spirituelle, c'est la seule manière de rejoindre le point de vue de la métaphysique. L'esprit est fait pour l'être. L'esprit est fait pour le bien. Et non pas l'être est fait pour l'esprit. Ou le bien est fait pour la volonté. Oui, la relation n'est pas réciproque. Parce que d'un côté, il y a acte, et d'autre côté, il y a celui qui est actué. C'est pas une relation réciproque. Ce n'est pas une intersubjectivité. La connaissance intellectuelle n'est pas une intersubjectivité, et l'amour non plus. Il y a un primat de l'objet. J'espère que ça vous comprenez au moins que dans la vie, que dans la philosophie du vivant, il y a trois moments différents d'opérations vitales. Et que ces trois opérations vitales se modifient en fonction du rôle propre de l'objet et de l'acte. Je passe maintenant au dernier mode de l'acte. Le mouvement. Le mouvement physique. L'acte dans le monde physique. Pas dans le monde vivant, mais dans le monde physique. Qu'est-ce que c'est que l'acte dans le monde physique? Dans le monde physique, l'acte, c'est le mouvement. Notre univers est en acte par son mouvement. Et dans son mouvement. Un univers en repos est un univers en puissance. Donc il n'existe jamais tout seul en puissance. Il n'existe que par l'acte. Alors c'est les rapports, vous voyez, qu'on retrouve ici entre le devenir et l'être. Et c'est ça qui est intéressant. L'être en acte, c'est l'être. Que devient l'être en acte dans le monde physique? Et ça, c'est très très intéressant, parce que c'est un des aspects sur lesquels, de fait, on pourrait saisir toutes les philosophies. Quels sont leurs rapports qu'ils ont entre le devenir et l'être? Interrogez les philosophes entre le devenir et l'être. Quel est leur rapport? Pour Platon, pour Heidegger, c'est tout à fait différent que pour Aristote. rigueur aussi, il y a l'étant et l'être. L'étant, c'est le devenir. Il est séparé de l'être. Alors que, pour Aristote, le devenir implique l'être. Mais à sa manière. Existe. Il existe dans son devenir. Vous ne pouvez pas séparer du monde physique le devenir et l'être, puisque c'est par le devenir qu'il est. C'est par le mouvement qu'il est. Et ça, vous voyez, ce qui est important, c'est que, de fait, Aristote, en disant ça, montre qu'il peut y avoir une science physique en se servant des mathématiques. Tandis que si je suis platonicien, j'explique pas. Aristote permet de comprendre comment le psychologue, la psychologie, qui est mon devenir intérieur, qui provient de mon conditionnement, interfère dans ma vie spirituelle. Je ne sépare pas au couteau la psychologie et ma vie spirituelle. L'oraison. La psychologie se tait. Et puis, je suis dans l'oraison. Pas du tout. Tout d'un coup, vous vous réveillez faisant oraison, en plein dans un thème psychologique complètement idiot. Vous rêvez. Le rêve éveillé. Dans l'oraison. Alors, comment ça se fait? Ben oui, vous n'avez plus été assez attentif à votre finalité. Étant fatigué, vous n'avez pas pu être attentif à votre finalité. Et vous êtes retombé dans le psychologique. Vous êtes retombé dans le conditionnement. Et on fait ça très vite. Quand on est fatigué. Et le psychologique est le lieu de la fatigue. C'est pour ça qu'il prend tant de place dans un univers fatigué. Notre univers est fatigué. Dès que je suis éveillé, je suis au-delà. Mais je ne nie pas le psychologique. Mais je suis au-delà. Je suis finalisé. Alors, c'est très intéressant de se poser la question. Qu'est-ce que c'est que l'être en acte dans notre monde physique? Posez-vous loyalement la question. Je ne dis pas dans votre corps vivant, mais dans votre corps cadavérique. Est-ce que votre corps cadavérique, celui qui sera un cadavre, est-ce qu'il est encore en acte? Est-ce que la petite pierre est en acte? Est-ce que l'eau, ma sœur, est en acte? Voyez. Et quel est l'acte que je saisis dans ce monde physique? Je dis dans ce monde physique, l'acte, c'est le devenir. D'où vous voyez la relativité absolue. Le monde physique, c'est la relativité absolue. Parce qu'il n'existe que dans il n'existe que dans le devenir. Et le devenir implique la relativité. Quelqu'un qui ne vit qu'au niveau de la matière est nécessairement dans la matière. relativité. Parce que le monde physique aboutit à la matière, et la matière est dans la pure relativité. Parce que la matière est la pure puissance. Alors ça, c'est très important et très intéressant pour nous de bien comprendre que le monde physique ne peut être atteint que dans son devenir. Et que ce devenir implique cette relativité. Ça ne me scandalise pas, au contraire. C'est très vrai. C'est ce que dit Parménide à sa manière. Le monde du devenir, le monde corruptible, c'est un monde à double tête. Pourquoi ? Parce que le propre du devenir, c'est d'appliquer les deux contraires. Et si le propre du devenir, c'est d'appliquer les deux contraires, j'ai tout le temps cette lutte entre les deux contraires. Ils se rejettent. Ils ne peuvent pas coexister. Donc ils sont tout le temps en lutte. Le monde physique, c'est le monde de la lutte. Alors, l'être en acte, s'identifie, ce n'est qu'une distinction de l'intelligence qui peut seule atteindre l'être en acte dans le devenir. Au point de vue existentiel de mon expérience, je ne peux jamais saisir. Qu'avec l'expérience qu'on saisit. Ce n'est pas l'être sauvage, comme dira Merleau-Ponty. L'être sauvage, c'est celui qui est antérieur à la pensée. C'est le petit lapin qui court tout le temps. Et dès que vous voulez le prendre vite, vous mettez du sel sur la queue pour le prendre. Et vous n'arrivez jamais à le prendre, l'être sauvage. Parce que tout le temps, dès que vous ne pensez plus, l'être, c'est le devenir. Mais il vous échappe. C'est ça qui explique la très grosse difficulté du jugement d'existence. Parce que le jugement d'existence, on ne peut le penser que quand on a dépassé le sensible. Le sensible fait coller au devenir. Et le sensible me faisant coller au devenir, je n'arrive pas à distinguer être et devenir. Il faut arriver à distinguer les deux. Alors évidemment, mon expérience interne m'aide à faire cette distinction, ça c'est sûr. Mais ce n'est pas là que j'aurai la saisie de l'être, du jugement d'existence dans toute sa pureté. Pourquoi ? Parce que l'être que je saisis dans mon expérience interne est toujours selon un mode d'intentionnalité. Cogito, je pense. Je ferme les yeux, je pense. J'aime. Je suis dans l'ordre de l'intentionnalité. Et dans cet ordre d'intentionnalité, je ne saisis pas l'être en acte. Ma pensée dans l'être, et l'être est noyé